Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour Pararon, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix est libre et joyeux Noël bien sûr, émission un peu spéciale cette semaine, carrément exceptionnelle même. Nous allons parler de livres, certes d'histoire comme toujours, mais uniquement de contes cette fois. Tout à l'heure, nous écouterons le magnifique conte de Dickens, tellement parfait qu'il s'appelle Un conte de Noël. Mais d'abord, j'accueille mon invité, le meilleur de tous les Pères Noël.
Mais c'est normal ça, quand elle fait des bêtises, je la corrige, c'est l'amour. T'es pas en sucre, non?
Mais l'écoutez pas, monsieur dame, il manque comme un arracheur dedans. Tiens, l'autre fois chez Roger, il a voulu me faire passer par la vie d'ordure. Il voulait me friser les cheveux avec le fer à souder.
Mais c'est très dangereux ça, Félix.
Mais oui, Thérèse, il est drôlement dangereux. Il a mis ma télé à la consigne, il a bouffé le ticket.
Bon, monsieur, ça n'est pas l'armée du salut, sortez. Non, mais c'est des querelles d'amoureux, ça, vous êtes marié, vous êtes jamais disputé avec votre femme, vous?
Oui, mais jamais à coup de fer à souder.
C'est parce que vous êtes pas bricoleur,
c'est... En tout cas, Félix, il ne reste pas moins qu'elle ne veut plus vous voir.
Parce que maintenant encore, on était dans les bras l'un dans l'autre, à roucouler comme deux pigeons qui s'aiment d'amour tant.
Félix, joyeux Noël, fait.
Bonjour Gérard Jugnot. Ça vous fait toujours rire.
Oui, non, enfin, ça me fait rire parce que je l'entends assez peu. Quoi.
Ah bon?
Bah oui, moi, on ne fait pas partie de ces gens qui se passent en boucle ces films.
Pas comme moi alors.
Non, mais ce que je dis toujours, on est ceux qui les ont sans doute vus les moins souvent.
C'est la période de l'année où vous sort le plus de répliques du Père Noël? Ou c'est toute l'année?
Oui, alors, c'est toujours assez étrange quand il y a des citations, ce qui est assez honorable, hein, et j'en suis fier, mais je ne les comprends pas toujours. Donc il y a des gens dans la rue, des fois, ils me font « j'ai bien compris ». Pourquoi il me dit ça, le mec?
J'ai bien compris.
Oui,
quel est le principal défaut de Bernard?
Voilà, ça, c'est ça me sauve.
Les bronzés font du ski.
Et c'est ce que je raconte de temps en temps. J'avais été chez un notaire pour signer un truc et j'avais acheté un petit appart il y a quoi, 2-3 ans. Et il y a la femme à qui j'achetais, il y a une trentaine d'années, elle me faisait avec le bras comme ça en l'air. Je me suis dit, mais pourquoi elle me fait ça? Elle a un tic. En fait, c'était le Scrabble, quoi. des bronzés fruski étaient morts de rire. Et je me suis dit, mais pourquoi?
Oubliez votre Scrabble.
Voilà. Et donc, ça fait plaisir parce que ça veut dire que c'est bien ancré dans l'univers des gens, quoi.
Ça vous agace pas?
Non, ce qui m'agacerait, c'est s'il y avait que ça, quoi. Ouais. Mais l'avantage, c'est qu'on a fait d'autres choses depuis et qu'on parle aussi de Monsieur Batignolles, de Tandem ou de Meilleur Espoir.
Ou de Pinot Simple Flic.
Voilà.
C'est un de mes préférés. Elle écoute toujours. Justement, vous n'êtes pas là pour un film, mais pour un livre. Vous publiez C'est l'heure des contes chez Flammarion, illustré par Mouche Cousue. Vous êtes un lecteur de contes, vous, ou vous souveniez simplement de ceux que vous avez lus qu'on vous a lus d'ailleurs dans votre enfance?
Non, j'en lis assez peu maintenant, mais j'ai été très bercé par ça. On m'offrait souvent les contes et légendes, c'était une collection, ça, contes et légendes de la Mésopotamie, et contes et légendes de l'époque romaine. Alors ça me gonflait un peu parce que j'aurais préféré qu'on m'offre Tintin ou Les Pieds Nickelés, parce que j'ai jamais été un grand lecteur à l'époque. Mais, et puis, tous ces contes que j'ai lus, les contes de Grimm, de Perrault, ou les fables de La Fontaine, toutes ces choses qui m'ont un peu perturbé, parce que je veux dire que le Perrault, ça m'a toujours fait très peur, quoi, ces contes.
C'est terrifiant, parfois.
Alors, donc là, je les ai revisités et déformés un peu plus.
Alors, trois fois rien. on va y venir. Mais c'est quoi un conte, au fait?
C'est un conte, c'est une parabole, quoi. Pour moi, c'est une fable. C'est-à-dire qu'on se sert de la littérature pour raconter un truc ou pour parler d'un problème. C'est un peu le principe du cinéma. En tout cas, les comédies que moi, j'aime bien faire. C'est-à-dire qu'on prend un truc qui me préoccupe et puis j'essaye d'en rire ou de rentrer de l'intérieur pour comprendre et de désamorcer. Je crois que les contes de Perrault étaient faits pour... à notre époque, on pourrait dire que c'est presque des vaccins contre l'horreur du monde.
On va essayer d'en faire un peu le tour, mais pour se donner une idée quand même, je vous propose d'en écouter un. Et moi, j'ai ma botte secrète. Nous avons un lecteur de texte officiel dans La Voix est libre, vous savez ça. Mmh. Le comédien Philippe Dussault qui est avec nous aujourd'hui. Ça va Philippe ?
Très bien, je suis ravi d'être là.
Merci d'être là. Exercice périlleux, d'habitude chaque semaine, vous nous enregistrez un passage d'un grand roman avec Boris Paczynski aux manettes qui dit oh, « on va refaire ce morceau-là, et puis ce morceau-là, on va le refaire cette phrase ». Mais aujourd'hui, c'est dans les conditions du direct. Merci de vous prêter au jeu, on vous écoute. Vous nous lisez donc la version juniesque du Petit Chaperon Rouge.
Un loup chassé des steppes froides et inhospitalières de l'Asie centrale tentait de s'implanter en Europe. Dans sa vie bien remplie, il avait déjà dévoré deux petits chaperons rouges, plusieurs mère-grand, un petit poussé et des dizaines de petits chiens abandonnés sur les aires d'autoroute. L'été venu, il se régalait de ces petites bêtes si faciles à croquer, attachées à des poteaux, prêtes à être consommées sans modération. Un jour, le goût de la viande lui passa. Tout ce sang, ses cris, ses débattements le lacèrent. Une mère-grand, particulièrement coriace, fut le déclencheur. Sa viande était sans saveur et surtout il se cassa deux dents sur ses os trop durs. C'est fou le nombre de personnes âgées équipées de prothèses en titane. Bref, le loup prit goût aux légumes. Un matin qu'il traversait la clairière d'une grande forêt, qui tentait de se refaire une santé après qu'un fumeur inconscient eut incendié quelques centaines de ses hectares, son flair le mit en alerte, ou plutôt en appétit. Un petit chaperon rouge, son petit pot de beurre et sa galette sous le bras, marchait d'un pas alerte sur le chemin qui menait, selon toute probabilité, chez sa grand-mère. Par chance, les enfants de la vieille n'avaient pas les moyens de la placer dans une maison de retraite et elle passait sa fin de vie dans une bicoque perdue au fond des bois. Ils envoyaient leur fille, de temps en temps, avec quelques victuailles et de l'eau, quand le réchauffement climatique provoquait une canicule. Le loup avait l'œil rivé sur la galette et le pot de beurre. La fillette s'apprêtait à tirer la chevillette de la porte de sa grand-mère afin que la bobinette chût, quand le loup se décida à passer à l'attaque. Plus vif que l'éclair, il bondit sur la galette et le pot de beurre. Mais l'enfant, qui en avait vu d'autres, sortit de sa besace une bombe anti-agression qui aveugla le pauvre loup. Alertée par ce remue-ménage, la grand-mère apparut sur le pas de la porte et paralysa l'animal d'un coup de taser que son défunt mari lui avait offert pour ses 70 ans. Le loup, pétrifié, fit un infarctus massif et foudroyant. Son dernier regard fut pour ce délicieux pot de beurre qui s'était renversé dans le panier sur la jolie galette croustillante. Décidément revigorée par cet épisode mouvementé, la vieille femme alla chercher un grand couteau de ranger et se mit à dépecer le pauvre animal. Le petit chaperon rouge ramassa du charbon de bois, dont la clairière calcinée ne manquait pas, et alluma un barbecue. La grand-mère tira de derrière ses fagots une bouteille qu'elle gardait pour une belle occasion et la déboucha. Elles dégustèrent un beau rôti de loup au fenouil. La grand-mère prépara le reste de l'animal en daube et en pâté. Elle en mangea tout l'hiver. Comme quoi, l'homme est un loup pour l'homme. Et pour le loup aussi.
Merci Philippe Dussault, c'était donc la version du Petit Chaperon Rouge revisité par Gérard Jugnot dans son livre C'est l'heure des contes, chez Flammarion. Vous ne respectez rien du tout Gérard Jugnot.
Non, qu'est-ce qu'il y a de... Est-ce que... Je trouve que le conte original est aussi horrible. Simplement on a changé de croque-mitaine quoi. C'est-à-dire qu'avant le croque-mitaine c'était le loup, maintenant on le préserve, on le bichonne. Et le croque-mitaine, c'est Fourniret ou Émile Louis, quoi. Donc,
ah, Émile Louis, il est dans un autre de vos contes, oui, on en parlera tout à l'heure.
Oui, mais oui, je me suis dit, tiens, c'est marrant, si le loup devenait vegan, comme c'est la mode, ben, du coup, il s'intéresse plus à la galette et au pot de beurre qu'au petit chaperon rouge. Et on change de paradigme.
On y replonge dans un instant dans ces contes-là. Merci, à tout de suite, dans un instant.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Gérard Jugnot qui publie C'est l'heure des contes chez Flammarion, illustré par Mouche Cousu, et Philippe Dussault, tapis dans l'ombre, prêt à n'importe quel moment à lire un texte de ce livre. On a écouté tout à l'heure votre version, Gérard Jugnot, du Petit Chaperon Rouge, avec un loup qui en voulait finalement plus au pot de beurre qu'au Petit Chaperon Rouge. Je l'avais choisi parce qu'il représente bien l'idée du livre, c'est-à-dire que vous retournez tout en fonction de nos valeurs modernes.
Oui, c'est revu et corrigé. à l'aune de notre époque formidable. Comme...
Mais vous avez pris un compte et vous vous êtes dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais en faire aujourd'hui ? Ou vous êtes parti de quelque chose, une observation de votre quotidien et ça vous avait fait penser à l'un ou l'autre ?
Oui, je ne sais pas bien. Au départ, je ne voulais pas forcément publier ça, mais j'ai commencé par écrire un ou deux. J'ai dit, bah oui, mais finalement, il y en a beaucoup qu'on pourrait revisiter comme ça, avec dans un contexte moderne, enfin en tout cas contemporain. Et je me dis, tiens, c'est vrai que ça change. Et puis, j'ai même fait une postface parce que finalement, avec ce confinement, il y a beaucoup de choses qui auraient encore changé, quoi. Le petit Pousset n'aurait pas pu être abandonné à moins d'un kilomètre. Il n'avait pas son attestation dérogatoire de déplacement.
Il est dedans, le petit Pousset aussi.
Bah, maintenant, c'est 20 kilomètres, donc maintenant, il pourrait être abandonné. Mais c'est vrai que quand on y pense, quand on lit ces contes, l'histoire du petit Pousset, c'est abominable. Une famille qui est tellement pauvre qu'elle décide de perdre tous ses enfants dans la forêt plutôt que de les nourrir, de les tuer. Heureusement, on a maintenant le secours populaire et les Restos du Cœur.
Oui, parce que finalement, alors c'est un rire désespéré hein, dans vos contes à vous, mais on se rend compte aussi que ça va quand même beaucoup mieux qu'à l'époque des Frères Grimm.
Absolument, non, mais c'est vrai que je fais je tends un miroir assez désolant sur la pollution, le réchauffement, les fake news, enfin, tout ce qui fait la beauté de notre époque. Mais en même temps, je voudrais surtout pas vivre à l'époque de Grimm. Vous savez, quand vous allez chez le dentiste, vous êtes content d'être en 2020 plutôt qu'en 1450.
Ouais, plutôt qu'avec un verre de rhum comme anesthésie.
Voilà, et avec un menteur d'arracheur de dents.
Alors, il y a la fable du renard et du corbeau, mais cette fois, le corbeau, il n'a pas dans son bec un grand fromage, mais un vieux babybel qu'il a trouvé dans une poubelle.
Oui, et puis ce fromage n'a plus d'odeur, donc le loup n'est plus à lécher. Et puis surtout, et après, quand on réfléchit, il n'y a aucun corbeau qui mange du fromage.
C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est ce que vous faites remarquer. Oui, les corbeaux, ça ne mange pas de fromage.
Oui, c'est comme... j'ai analysé certains trucs. Quoi. Quand Cendrillon, sa marraine lui... Là, hop, la transforme, elle lui fait une très belle robe, sauf qu'elle n'a pas pris de douche, la pauvresse. Donc...
Donc ça allait avec la magie.
Ça
c'était
dure.
Le package.
Et donc, je me doute que la chaussure qu'elle abandonne pour le prince doit sentir très mauvais.
Il y a Barbe Bleue aussi, mais version Balance ton porc. Vous nous racontez cette fable, ce conte ?
Oui, Barbe Bleue, oui. Là, on parlait de féminicide, c'est vraiment le top. Hein. Il y avait quand même 8 cadavres de femmes dans sa penderie. Moi, ça me faisait très, très peur. Ces cadavres sanguinolents que la pauvre... Mais donc, enfin, cette pauvre femme qui découvre ça, elle va y passer. Donc, moi, je me suis dit, tiens, quel est l'ogre moderne ? Bon, c'est plus un... On a beaucoup parlé de ses producteurs ou des suborneurs de jeunes femmes. Donc, voilà, je me suis amusé à dire que Barbe Bleue, ça pouvait être un grand producteur qui avait une grosse barbe. Il n'y a pas que les producteurs qui abusent des jeunes filles.
Vous nous racontez l'histoire, là ?
Oh ben non, c'est juste une jeune actrice un peu écervelée qui pense que pour arriver, il faut coucher, quoi. Et on sait très bien que ça ne marche pas, en plus.
Mais à la fin, elle prend conscience qu'il y a un nouveau hashtag.
Oui, c'est ça, il y a Balance ton porc, et ben, elle l'a vraiment balancé par la fenêtre. Donc, je pense qu'elle a fait une erreur, elle a lu au pied de la lettre. Non, c'est une manière assez affreuse de parler de la vérité de notre époque, mais c'est pour rire. Et le rire étant une sorte de médicament pour supporter toutes les choses qui me font peur.
Il y a un truc qui me fascine dans Barbe Bleue, je pensais que vous alliez plus le souligner dans votre livre, mais c'est pourquoi le type lui donne une clé en lui disant « n'entre pas là-dedans ». C'est le meilleur moyen pour donner envie à quelqu'un d'entrer.
Ben absolument, oui. Non, il y a des tas de choses très très étranges dans ces contes. Moi, j'ai été terrifié par les ogres, par exemple. Je me souviens d'un truc avec Saint-Nicolas où il y avait des petits enfants qu'on avait mis dans le saloir. Mon grand-père était boucher, donc ça m'avait intrigué. Et d'imaginer ces mômes, de m'imaginer moi dans le saloir en train de saumurer avant d'être dévoré par un ogre, c'est abominable.
Mais sauvé par Saint-Nicolas.
Oui, absolument. Oui.
Et voilà. Quel écrivain vous êtes ? Est-ce que vous êtes pris au sérieux en écrivant, c'est-à-dire... en vous mettant dans une sorte de discipline d'écrivain, dans un coin très précis
Non, moi j'ai écrit deux, trois trucs. J'ai écrit d'abord une époque formidable, ce qui était une manière de parler du splendide. Parce que c'était une envie que j'avais, parce que j'avais entendu beaucoup d'erreurs, d'idioties sur notre parcours. Et je me suis dit, tiens, tant que la mémoire tient un peu, je voulais un peu raconter ma jeunesse et notre jeunesse avec mes camarades du Splendide, qui est quand même une chose qui a changé ma vie, quoi, cette rencontre. Donc là, j'ai écrit un peu comme ça, en essayant de trouver un peu de style. Moi, j'ai écrit beaucoup de films. Hein. J'ai participé à des écritures de pièces, mais je n'avais jamais écrit personnellement seul, enfin, du début à la fin. Donc voilà. Et puis après, j'ai écrit un petit truc sur un abécédaire. Donc c'est aussi des petits articles. Enfin, et là, c'est encore la chance, c'est des nouvelles, quoi. Peut-être qu'un jour, je vais me mettre à écrire une vraie histoire du début à la fin. Mais non, je fais vraiment ça. Comme ça, les idées viennent dans ma tête, et puis je m'y mets, et puis j'écris l'histoire. Mais je n'ai pas cette prétention ou ce savoir-faire de me mettre au travail le matin. Moi, mes amis scénaristes ou auteurs, ils se mettent le matin à 8h ou à 6h, ils écrivent jusqu'à midi. Et il faut faire tant de feuillets par jour. Enfin, c'est une discipline que je n'ai pas, ça. Moi, je suis un acteur, je suis un metteur en scène. J'écris en faisant en bougeant. J'écris un peu debout, quoi. Pour les films, en tout cas.
Mais vous avez pris du plaisir en écrivant?
Ah oui, beaucoup, beaucoup. Oui, oui. Oui, beaucoup, parce que c'est assez agréable de ciseler une phrase, d'essayer de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux... Comment ça se balance? Est-ce qu'on raconte tout? Est-ce que c'est pas trop lourd? Est-ce qu'on est clair? Est-ce que là, il y a une petite chute, une petite vanne? Enfin, c'est trouver les beaux... En plus, là, c'était amusant de trouver aussi à la manière d'eux, quoi. D'utiliser le vocabulaire de la chevillette qui va choir ou chuchure.
La chevillette qui chue.
Qui chue. D'ailleurs, je me suis beaucoup interrogé là-dessus, parce que c'est des trucs qu'on emploie, mais qu'on ne sait pas comment les conjuguer. Hein.
C'est ça ce qui est beau aussi dans ces contes. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tout un vocabulaire et une manière de parler qui est resté, qu'on n'utilise pas forcément, mais on connaît le mot. Chevillette, tout le monde connaît le mot.
Absolument.
Personne ne sait exactement ça correspond, mais on connaît ce mot.
Absolument,
c'est assez fabuleux.
Ça n'a rien à voir avec un interphone, quoi. Il y a des tas d'expressions même qu'on a encore, genre rien ne sert de courir, il faut partir à point. On ne dit pas ça, on ne dit plus à point, hein. on dirait à temps. Mais ça reste dans le vocabulaire. Et La Fontaine aussi reste quand même beaucoup dans nos têtes, parce qu'on a eu toutes ces récitations. Ça reste, oui.
Vous en connaissez par cœur, des fables ?
J'ai un vrai problème de mémoire.
Ah, un comédien ?
Oui, oui, moi j'oublie tout au fur et à mesure.
Ah oui, c'est-à-dire que vous pouvez connaître une pièce de théâtre en entier, mais quand elle est terminée, vous l'oubliez.
Oui, et même il m'arrive d'un truc... moi j'ai joué beaucoup de pièces, et par exemple, je ne pouvais pas... Si je ne commençais pas depuis le début, je ne pouvais pas me souvenir juste d'un passage.
Ah oui, il faut que l'un enchaîne avec
l'autre.
Oui,
et puis surtout, c'est lié... La mémoire, j'ai une mémoire assez visuelle, moi. Donc, il faut que je sais qu'en m'asseyant, je dis tel truc, tel sentiment me fait me lever, fait dire cette phrase. Bon, et puis je suis... Ouais, je ne sais pas si vous entendez comment je parle, là, un petit peu... Je bredouille souvent. Je suis un ancien dysphasique ou dyslexique. Donc, j'ai besoin de beaucoup travailler ça pour que... Et ça s'oublie encore plus vite que je l'ai appris. Mais... Il m'est arrivé de reprendre des pièces après les avoir arrêtées pendant 6 mois, et ça revient très vite, mais c'est dans un coin de ma tête et ça revient pas aussi facilement. J'ai beaucoup d'admiration pour Lucchini, qui a un disque dur magnifique et qui peut ressortir des tonnes de choses.
Philippe Dussault, qui est comédien de théâtre, vous avez grâce au fils de Gérard,
oui,
tiens donc,
qui Arthur. M'a gentiment employé à plusieurs reprises, Arthur.
Et comment vous faites pour apprendre? Moi, ça me fascine. Comment vous faites
sur
pour apprendre?
Sur les tournages au cinéma, je crois qu'il y a une mémoire vive très courte qui s'annule dès que c'est fini. Fin de journée, fin de tournage, je perds tout. Je suis sûr de ça.
Et au théâtre?
Je crois que la possibilité de récupérer une pièce qu'on a jouée X fois, X dizaines de fois, revient plus facilement, mais un peu de travail malgré tout.
Oui, c'est assez étrange la mémoire des acteurs. Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Oh, comment vous faites pour apprendre tout ça? Moi, j'ai fait des... Je me souviens avoir joué un seul en scène de Philippe Claudel, extrêmement compliqué. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à le mémoriser. Je ne pourrais pas vous resituer, ou reciter d'ailleurs quelques phrases, mais c'est assez étrange parce que ça se fait. La mémoire du théâtre, elle s'installe très longuement. Par rapport au cinéma, vous parliez tout à l'heure, Philippe, de la mémoire courte. On apprend et hop, tout de suite, ça sort et ça s'oublie. Alors qu'au théâtre, et c'est d'ailleurs pour ça que quand on répète, il y a un moment au bout de 3-4 semaines, où on est nul, rien ne se fait, on a l'impression que tout ce qu'on a construit se fout par terre, et puis ça revient, c'est beaucoup plus lent, c'est pour ça qu'on a besoin de répéter au moins un mois et demi.
Restez avec nous, on va chercher une nouvelle bûche pour entretenir le feu, on revient pour écouter vos histoires, à tout de suite.
La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Sur la chanson de Blanche-Neige, toujours avec Gérard Jugnot qui revisite les contes dans C'est l'heure des contes chez Flammarion. Et parmi les histoires que vous re-racontez, il y a celle de Blanche-Neige évidemment. Philippe Dussault est toujours là aussi. Philippe, on vous écoute pour Blanche-Neige et les sept mains.
Vers la fin des années 80, Jean-Pierre et Nicole Neige, un couple de petits commerçants sans histoire, mis au monde une fille très jolie, mais d'une grande pâleur. Ils lui donnèrent un prénom qui lui allait bien. Blanche. À leur grande surprise, la petite naquit avec sept bras et donc sept mains. Ils s'interrogèrent, mais ne firent pas le rapprochement avec leurs vacances d'août 86 en camping dans ce beau pays d'Ukraine près de Tchernobyl. Ses parents la protégèrent et sa particularité ne fut jamais considérée comme une infirmité. Bien sûr, il fallait ajouter cinq manches à ses chemises. Mais il y avait des avantages. Très musicienne, elle pouvait souffler dans une flûte et marquer le rythme sur une batterie tout en jouant de l'accordéon. Craignant qu'elle ne prenne trop de poids, sa maman lui faisait un peu la guerre car elle pouvait saisir sept gâteaux à la fois. Les choses se compliquèrent à l'école. On connaît la cruauté des enfants et sa morphologie étrange déchaîna les colibés et les mauvaises blagues. La pauvre Blanche en entendit des vertes et des très mûres, du genre « T'as de la chance, tu peux jouer au jeu des sept familles toute seule !»« Non, tu ne peux pas faire de ping-pong avec nous, on n'a pas assez de raquettes. » Certains lui chantaient « Samedi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince, et ses sept trois frères sont venus chez toi pour se serrer toutes les pinces en même temps. » Bon, elle fit des études de plomberie quand, soudain, ses parents décédèrent brutalement dans un accident de camping-car alors qu'ils assistaient à une étape du Tour de France dans les Alpes. Une histoire idiote de frein à main mal serré. Elle se retrouva seule, obligée de prendre son destin en sept mains. Elle fit des débuts prometteurs comme serveuse où son handicap lui donnait de grands avantages, mais une fois de plus, les moqueries la blessèrent et la firent renoncer. Côté cœur, c'était aussi difficile. Un forain s'intéressa à elle, mais elle comprit très vite qu'il ne l'aimait pas pour elle, mais pour ce qu'il pourrait en tirer comme attraction dans son cirque. Son histoire se serait terminée tragiquement si le destin n'avait frappé à sa porte. Une femme, indienne, du quartier de la Chapelle, lui proposait un modeste travail de couturière. Elle pouvait coudre trois boutonnières là où une petite main n'en faisait qu'une. C'est dans cette échoppe qu'elle rencontra un fakir bouddhiste. Voyant en elle une réincarnation de Shiva, il tomba sous son charme, l'épousa et l'emmena avec lui en Inde. Dans ce beau pays, ses sept bras et ses sept mains ne troublaient personne. Au contraire, les gens la regardaient avec admiration, avec envie. Elle avait la grâce de leur déesse. Comme il fallait bien vivre, son fakir de mari l'installa dans une petite maison du Cachemire et la décida à offrir des hugs, ces embrassades réconfortantes, très en vogue partout dans le monde. Grâce aux réseaux sociaux, elle devint très vite célèbre. Elle rentra même dans le Guinness des records en distribuant ses câlins, car
elle les faisait trois par trois, en serrant, de plus, chaleureusement la main d'une quatrième personne. Depuis, elle vit là-bas, très heureuse et riche. Elle vient de mettre au monde un petit garçon, charmant, né, lui, avec 7 pieds.
Bon courage. Merci Philippe Dussault. Gérard Jugnot, on voit bien ce qui s'est passé.
Là, c'est pas possible, oui, on ne peut plus faire des hugs.
Ah bah non, là,
elle
en ce
est
moment,
au chômage,
c'est
infaisable.
Ah, oui. Mais on voit bien ce qui s'est passé, là. Vous avez pensé à Blanche-Neige et les 7 nains, et vous avez tourné le titre dans votre tête, et oui, puis ça s'est transformé en 7 mains, et puis après, vous êtes allé, quoi.
Oui, après, je me dis, qu'est-ce que je vais en faire de ce personnage? Oui, non, c'est un exercice très ludique. Moi, ça m'a beaucoup amusé de faire ça. Alors, c'est vrai que c'est un peu cruel, un peu méchant, mais... Voilà, c'est pour rire.
Je ne sais pas si c'est si cruel que ça, parce que la morale de votre histoire à vous, c'est qu'une différence, effectivement, ça peut être douloureux et on peut en souffrir, mais on peut en faire quelque chose. On peut trouver sa voie, chaussure à son pied, si on veut.
Oui, absolument.
C'était ça l'idée aussi. Ou est-ce que les morales arrivent au fur et à mesure de la lecture, ou est-ce que vous dites aujourd'hui, je vais enseigner le fait qu'une différence est quelque chose de
non,
bien?
Non, pas du tout. Je pense que. Il y a des comptes positifs, d'autres moins. C'est vrai que. Là, j'entendais « Un jour, mon prince viendra », c'est le grand truc quand on est un enfant. Vous savez, le drame en France, c'est que « amour », ça rime avec « toujours » dans la langue. Hein, on sait très bien que, malheureusement, ça ne rime pas toujours. Quoi. Donc, « Un jour, mon prince viendra », il va venir, son prince, peut-être qu'il ne viendra pas. Là, moi, j'attends de gagner des 200 millions à l'euro-million, mais on n'est que 140 millions à espérer.
Mais c'est vrai qu'il faut les lire dans leur contexte, bien sûr, et ils sont merveilleux, tous ces contes. Mais il y en a beaucoup qui ont quand même un peu vieilli. Ne serait-ce que Blanche-Neige, qui attend que son prince vienne, ça, aujourd'hui, bon, c'est un peu... C'est pas terrible, quoi.
Ben, non, je pense que ça n'a pas vieilli. Les gens attendent toujours le prince. Alors, le prince... il vient pas toujours, quoi. Mais c'est le principe du loto, quoi.
Oui, mais la petite Blanche-Neige qui fait le ménage en entendant le retour des nains de la mine... Bon, bah voilà,
ah, oui.
Ça a bougé.
Ah, c'est sûr. Heureusement. C'est sûr que. Oui, il y a eu l'émancipation de la femme. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu même au théâtre, autrefois, je voyais un Phédot au français avec ce personnage sud-américain qui est cocu et qui dit ouais, ma femme, je vais la tuer. C'est un truc qu'on ne peut plus écrire maintenant, quand même. C'est des choses sur lesquelles. On a un regard différent, quoi. C'est sûr qu'avant, on pouvait acheter du banania et commander une petite tête de nègre, qui était un dessert. Et ça nous préoccupait moins que maintenant. Heureusement que les choses changent, quoi. Enfin, il faut pas aussi. Non. Après, il y a aussi des excès, quoi. Il faut pas déconner non plus.
Faut garder la légèreté.
On peut rire un peu, quoi.
C'est pas du tout léger, c'est même plutôt grave. C'est l'histoire du petit Pousset. Terrible, donc il est abandonné par ses parents, mais il a mis des petites miettes de...
Des cailloux
pour se
oui,
retrouver.
Par exemple, là, regardez, vous lisez ce conte. Il met des petits cailloux. Ils vont dans la forêt pour se... Mais le petit caillou, il faudrait qu'il ait une brouette pour avoir beaucoup de petits cailloux. Sinon, ça marche pas, ce truc-là. Donc,
vous nous racontez votre version?
Bon, là, il est sauvé parce qu'il a Oise. Il a son portable... Et
Oise, c'est Waze.
Ouais, du Waze. Oh,
je comprenais pas, il a Oise.
Une chose.
Et oui, mais alors ça, c'était autre chose.
Le pauvre. Oui, non, il a Waze. Ou Oise, je sais pas comment. Enfin, il a son GPS. Allez, voilà. Oui, donc, ouais, je me suis tourné en ridicule parce que je parlais de House of Cards. Sauf carte. Mais oui, donc il s'en sort grâce à son GPS et puis tout va bien. Il y a plein de choses de péripéties que je raconte dans le truc. Et puis il voit enfin la lumière, il voit un petit tocard qui arrive et qui va les prendre en stop. Donc ils sont sauvés.
Sauf que le chauffeur est un peu particulier.
Le chauffeur est particulier.
C'est un ogre.
Voilà, c'est un ogre.
Mais c'est vrai en plus, on ne va pas dévoiler le nom de cet ogre-là. Mais c'est quelqu'un qui a fait l'actualité pour des choses terribles.
Oui.
Et en fait, c'est un ogre, ça fait partie de ces coups-là.
Oui,
les
ogres, maintenant, ce sont des pédophiles, ce sont des abuseurs d'enfants. Enfin, c'est ça l'ogre moderne, quoi. À l'époque, ils faisaient que manger. Maintenant, ils font des dégâts aussi.
Mais c'est contre ça, d'ailleurs, que les contes mettaient en garde les enfants, peut-être.
Oui, je ne sais pas. Je crois que ça devait les immuniser ou les leur ouvrir les yeux sur les dangers de la vie ou sur la fragilité de l'existence. Je ne sais pas à quoi ça servait. Je pense que, d'abord, il y avait une morale, qui n'était pas forcément la morale de nos jours, parce que c'était des morales un petit peu réactionnaires, mais en tout cas, ça avait une utilité, quoi. Les mômes ont toujours adoré avoir peur. Je crois qu'on adore avoir peur, pour ça que les gens vont voir des films d'horreur ou que la télévision est remplie de... Quand vous regardez la télé, quand même, TF1 ou France 2, c'est quand même le plus grand commissariat de France, quoi. Il y a des meurtres tout le temps. J'avais été surpris quand j'avais, moi, fait Pinault. C'est une autre époque, mais malgré tout, ça n'a pas tellement changé par rapport à ça. Un flic que j'avais interrogé, il m'a dit « J'ai sorti une fois mon pistolet et je n'ai jamais tiré en 40 ans de carrière. » Donc, alors qu'à la télé, ça défouraille à tout va, il y a des morts, des cadavres, des trucs. Donc, je pense que c'est une manière de s'immuniser, d'avoir peur par procuration. Mmh. Comme ça, on se dit « Ah, chouette, moi, il ne m'arrive rien. » C'est ça, la comédie. La comédie, c'est quoi? Vous êtes dans un siège au cinéma ou devant votre télé, vous voyez un mec en prend plein sa tronche, ça vous fait rire, et pendant ce temps-là, vous dites « Chouette, c'est pas à moi que ça arrive. »
Dans un instant, toujours des contes avec Charles Dickens. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Dashing through the snow, and what must stop and say, over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing the same song tonight. Un chant de Noël de Charles Dickens. Il s'agit sans doute du plus célèbre des contes de Noël, publié en décembre 1843. Il hante encore notre imaginaire. Il a fait l'objet déjà de beaucoup d'adaptations, au cinéma notamment, en dessin animé aussi. Un chant de Noël, c'est la soirée de Noël archétypale, un peu cliché, mais celle qu'on attend aussi, celle qui s'inscrit dans la tradition britannique de Noël, avec la neige, bien entendu, c'est un fondamental. Le froid, donc, mais adouci par la chaleur des foyers, l'esprit de fête qui règne dans les rues, une atmosphère de bienveillance, un moment un peu hors du temps où l'on essaye de faire un peu plus attention à son prochain, d'être un peu plus enthousiaste, un peu moins râleur, grincheux. Mais il existe certaines natures allergiques à ces bons sentiments. C'est le cas de Monsieur Scrooge, Ebenezer Scrooge, un sale bonhomme. Il déteste Noël, d'ailleurs il déteste tout, à part l'argent qu'il engrange et le souvenir de son seul ami et associé mort quelques années plus tôt, Jacob Marley. Pour tout le reste, c'est un sale type. Écoutez comment Dickens nous embrosse le portrait au tout début du conte.
Les changements de climat avaient peu de prise sur Scrooge. L'été le plus brûlant ne le réchauffait pas, l'hiver le plus dur n'aurait pu le faire grelotter. L'aquilon n'était pas plus âpre, ni la neige plus opiniâtre, ni la pluie torrentielle moins accessible à la prière. Le mauvais temps ne pouvait parvenir à lui damer le pion. Personne ne l'arrêtait jamais dans la rue pour lui demander d'un air joyeux « Mon cher Scrooge, comment allez-vous? Quand viendrez-vous me voir ?» Aucun mendiant n'implorait de lui la plus petite aumône. Aucun enfant ne lui demandait l'heure. Jamais de toute sa vie, homme ou femme ne pria Scrooge de lui indiquer le chemin de tel ou tel endroit. Les chiens d'aveugle eux-mêmes semblaient le connaître et lorsqu'ils le voyaient approcher, tiraient leur possesseur sous les portes cochères et jusqu'au fond des cours, après quoi ils remuaient la queue, comme pour dire « Mieux vaut pas d'œil du tout que le mauvais œil, mon ténébreux maître. » Mais qu'importait à Scrooge ? C'était précisément cela qui lui plaisait, se faufiler le long des chemins de la vie qu'encombrent ses semblables en faisant savoir à toute sympathie humaine qu'elle devait se tenir à distance.
Ah, il est sympa Scrooge, hein, je vous avais prévenu. Bon, il est assez détestable ce personnage, c'était pas tout à fait le même quand son meilleur ami était toujours de ce monde, Jacob Marley. Mais il est mort maintenant et donc ce soir de Noël, Scrooge rentre chez lui seul en ronchonnant avec son aigreur. Il a refusé d'ailleurs l'invitation de son neveu pour passer le réveillon en famille. Il n'aime pas Noël, c'est tout, c'est comme ça. Mais quand il ouvre sa porte... Il croit voir le visage de son ami Marley, mort donc depuis longtemps, se dessiner sur le marteau de sa porte, comme si un fantôme s'invitait. Lecture de Martin.
Le visage de Marley. Il ne baignait pas, ainsi que tous les autres objets de la cour, dans une ombre impénétrable, mais s'entourait d'une phosphorescence sinistre, comme un homard avarié dans une cave obscure. Il n'était ni furieux ni féroce. Il regardait Scrooge avec l'expression habituelle de Marley, et portait des spectres de lunettes relevées sur son front de spectre. Ses cheveux étaient bizarrement agités, comme par une haleine ou par des vibrations d'air chaud. Et bien que ses yeux fussent grands ouverts, ils étaient absolument immobiles. Pendant que Scrooge considérait fixement ce phénomène, le marteau redevint un marteau. Dire qu'il ne tressaillit pas ou qu'il ne sentit pas courir dans ses veines certaines sensations d'effroi qu'il n'avait pas éprouvées depuis sa petite enfance serait mentir. Mais il remit la main sur la clé qu'il avait lâchée, la fit tourner avec énergie, entra et alluma sa bougie. Il eut bel et bien un moment d'hésitation avant de refermer la porte et il regarda bel et bien avec précaution par derrière, comme s'il s'attendait, ou presque, au spectacle terrifiant de la perruque de Marley pointant sa queue de rat vers le vestibule. Mais il n'y avait rien derrière la porte que les vis et les écrous qui maintenaient le marteau. Salon, chambre à coucher, cabinet de débarras étaient exactement dans l'état où ils devaient être. Rien sous la table, personne sous le canapé, un maigre feu dans la grille, le bol et la cuillère préparés et la petite casserole de tisane de gruau, au chaud, sur la grille. Personne sous le lit, personne dans le placard, personne dans sa robe de chambre qui pendait le long du mur, dans une attitude suspecte. Le cabinet de débarras, comme d'habitude. Un vieux garde-feu, de vieilles chaussures, deux bourriches à poisson, une table de toilette sur trois pieds et un tisonnier. Tout à fait rassuré, il tira la porte et s'enferma à clé. Il s'enferma à double tour, ce qui n'était pas son habitude. Ainsi, à l'abri de toute surprise, il ôta sa cravate et revêtit sa robe de chambre, ses pantoufles et son bonnet de nuit. Puis il s'assit devant le feu pour boire sa tisane de gruau. Il changea pourtant de couleur quand, sans s'être arrêté, cela traversa la lourde porte et pénétra dans la pièce sous ses yeux. Au moment où la chose entra, la flamme mourante bondit dans l'âtre, comme pour dire « Je le connais, c'est le fantôme de Marley ». Puis elle retomba.
Alors c'est un vrai fantôme, hein. Ouh, avec ses chaînes et tout. Scrooge, au début, refuse de croire qu'il s'agit du spectre de son ami. Il est un peu sceptique, mais Marley est venu pour une bonne raison. Il a un message pour Scrooge. Marley était le même genre de bonhomme que Scrooge. C'est pour ça qu'ils s'entendaient si bien d'ailleurs. Mais Marley veut mettre en garde son ami. Si tu continues à vivre comme ça, tu finiras comme moi, à errer comme un fantôme. Il lui annonce que trois autres fantômes viendront le visiter cette nuit. L'esprit de Noël passé, qui rappellera à Scrooge l'enfant qu'il a été, l'esprit du Noël présent. Cette fois, Scrooge assiste invisible au Noël de son assistant, très pauvre à cause de Scrooge, et qui, malgré ça, avec sa petite famille, porte un toast quand même à Scrooge. Et puis voilà l'esprit de Noël futur. Et quand Scrooge se réveille, il ne sait plus vraiment s'il a vécu tout ça ou s'il a rêvé. Toujours est-il qu'il a changé, c'est le moins qu'on puisse dire.
Il était tellement agité, tellement débordant de bonnes intentions que sa voix brisée pouvait à peine lui obéir. Il avait sangloté violemment au cours de sa lutte avec l'esprit et son visage était encore mouillé de larmes. Scrooge manipulait ses vêtements, les tournait, les retournait, les mettait sur lui à l'envers, les déchirait, les égarait, les rendait complices de toutes sortes d'extravagances. « Je ne sais pas ce que je fais », s'écria Scrooge. « Je titube comme un homme ivre. Joyeux Noël à tous. Bonne année au monde entier. Hola et oh, hola !» Il avait gambadé jusque dans le salon et s'y tenait maintenant complètement hors d'haleine. « Voilà la casserole, où était le gruau ?» s'écria-t-il en repartant et en faisant le tour de la cheminée. « Voilà la porte par laquelle est entré le fantôme de Jacob Marley. Voilà le coin où s'est assis l'esprit de Noël. Présent ! Voilà la fenêtre par laquelle j'ai vu les esprits errants. Tout est bien, tout est vrai, tout est arrivé !» Maintenant, pour un homme qui ne s'y était pas exercé depuis tant d'années, il avait un rire splendide, un rire absolument magnifique, le père d'une longue lignée de rires éclatants.
Un chant de Noël, donc lecture de Marc Messier, merci à lui. On se retrouve tout de suite avec Gérard Jugnot.
La Voix est livre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Gérard Jugnot qui publie C'est l'heure des contes chez Flammarion, une version moderne des contes et des fables que l'on connaît. Et il y en a un terrifiant dans sa version originale, beaucoup plus soft avec Gérard Jugnot.
Ils nous ont abandonnés dans la forêt et on ne retrouvera plus jamais le chemin de la maison.
Cesse de pleurer, tout va s'arranger.
Mais comment ?
Fais-moi confiance. Tu te souviens ? Je t'ai dit que je savais ce que je ferais si ça nous arrivait. Et mon plan a réussi. On n'a plus qu'à suivre les cailloux que j'ai semés.
Hansel et Gretel, l'adaptation, mais c'est un conte terrible. Deux enfants abandonnés qui se retrouvent dans une maison faite de pain d'épices, ça c'est plutôt sympa. Mais ils tombent sur une sorcière qui est la propriétaire des lieux et qui les engraisse pour les passer au four et les manger. Chez vous, Gérard Jugnot, la sorcière elle aimerait bien, mais elle a trop de cholestérol.
Non mais c'est parce que c'est pas une maison en pain d'épices, oui, c'est une maison en charcuterie. Oui.
Donc, avec les poignées en andouillette.
Oui, voilà, il y a des très jolies tuiles en jambon, du 3 à la machine. Il y a des poignées qui sont des petites saucissettes. Enfin bon, non, j'ai transformé ça. C'est un truc qu'on avait commencé à délirer avec mes camarades du Splendidaire, de ça, quand on faisait une émission à la radio pour la Belgique. Et j'ai repris ce conte charcutier. En fait, c'était au départ... L'histoire, c'était un type qui lisait la lettre d'un jeune enfant et qui racontait qu'il avait adapté Hans et Gretel avec la charcuterie. Et on découvrait qu'en fait, son père était charcutier. Et on disait, la semaine prochaine, nous vous lirons la lettre de la petite Violette. Son père est gynécologue. Donc on pouvait s'attendre à des horreurs. Et donc moi, j'ai repris ça un peu, je l'ai repris à ma sauce. Quoi. Mais là, il ne meurt pas.
Mais non, parce qu'il a trop de cholestérol.
Oui, c'est ça la sauve.
Mais il y a ce côté-là aussi dans ces contes modernes, c'est qu'il y a plein de choses qui freinent, en fait. Alors, pour le meilleur et pour le pire.
Oui, oui, absolument.
Mais ça ne fait plus du tout envie de se gaver comme ça de bonnes choses, que ce soit des friandises ou des
c'est sûr que, par exemple, comme je disais un truc sur le nitrite, ça fait très peur. Ce jambon, mon grand-père qui était boucher, il me racontait qu'il fallait toujours mettre du salpêtre dans le jambon, sinon il était gris et que les gens n'achetaient pas. Et bien là, ça s'appelle un peu du nitrite, et je crois que c'est très dangereux pour la santé. Donc on essaye maintenant de faire un peu attention. Quoi.
Oui, on découvre que quand le jambon est rose, c'est qu'il y a du nitrite et que c'est pas bon.
Mais oui, c'est terrible. C'est terrible que les choses appétissantes sont dangereuses maintenant. Enfin...
À la fois, c'est une belle définition des contes, ça. Il y a toujours un truc qui a l'air appétissant, etc., qui a l'air de faire envie. Et puis quand on arrive, finalement, c'est un piège.
Oui, il faut se méfier des mirages, quoi.
Parlant de mirage, vous nous racontez la légende des boules de Noël Frigou. C'est le oui, dernier.
Ça, c'est le dernier. C'est le truc que j'ai un peu gratté. On avait déliré ça. D'ailleurs, je cite mon camarade l'ermite. C'est un truc qu'on avait été invité dans les Hautes-Alpes. Puis on avait imaginé un conte à la manière de. Avec beaucoup de régionalisme et de patois. C'est une manière de rire. C'est un conte un petit peu olé-olé, puisqu'on parle des boules du père Frigou. Voilà, je n'en dirai pas plus.
Ah, vous êtes pudique, tiens.
Oui, non, mais c'est pas ça, c'est qu'il faudrait que je le lise.
Mais alors, c'est le seul qui n'est pas adapté d'un vrai
oui,
conte.
Oui, ça, c'est un conte original qui nous a été raconté par un employé des remontes-pentes, qui devait être, à mon avis, très, très aviné.
Avec un verre de vin chaud.
Voilà.
Mais tout ça, justement, ces films, Le Père Noël est une ordure, Une époque formidable aussi, c'est des contes, finalement.
Oui, je crois que... En tout cas, moi, j'ai toujours aimé le cinéma qui raconte des histoires. Pour moi, le cinéma, c'est la vie en mieux. Donc, forcément, c'est pas la réalité. La réalité, ça m'intéresse pas, puisque elle existe au journal télévisé, que c'est pas la peine. L'avantage de la fiction, c'est de transformer ça. Et moi, je la transforme d'une manière... plus joyeuse, même si parfois il y a des arrière-fonds noirs. Mais la comédie, ça ne repose que sur le drame. D'ailleurs, il n'y a pas de comédie sans drame. La comédie a été inventée pour vaincre, pour supporter ou pour guérir de nos blessures, de nos inquiétudes.
Quel voilà. est votre conte préféré, celui que vous avez lu à vos enfants ou que vous lisez à vos petits-enfants, peut-être ?
Je ne sais pas, mais je crois qu'il y avait les trois petits cochons que j'aimais bien. Parce que, je ne sais pas, c'était... Mais moi... Je disais tout à l'heure, ça s'est beaucoup passé par les dessins animés. Quoi. C'est vrai que Walt Disney s'est beaucoup emparé de tout ça. Quoi. Et toute ma jeunesse, ou même la jeunesse de mon fils, quand je lui racontais des trucs, c'est souvent je lui passais aussi les films. Et il y avait, j'ai encore dans l'oreille, qui craint le grand méchant ? C'est pas nous. Ça, c'est des choses comme ça que je traîne depuis mon enfance, quoi.
Vous savez que je vais visiter régulièrement des bibliothèques chez des personnalités. Mmh. Elle est comment, votre bibliothèque ? Est-ce que vous êtes un gros lecteur ? Vous avez beaucoup de
livres ? Non, je ne lis pas beaucoup. Ma femme lit énormément, donc il y a plein de bouquins qu'elle lit d'abord. Et puis elle me dit, celui-là, tu peux rentrer. Les bouquins, moi, je rentre ou tout de suite ou j'abandonne. Mais quand je suis dedans, je dois dire que je lis ça avec beaucoup d'attention. Là, je vais commencer le Marc Jeancourt, que je crois est un bouquin formidable. Non, j'ai plein de, beaucoup de bouquins de documentation. Quand je fais des films, c'est vrai que quand j'ai fait un film sur l'Inquisition, j'avais lu beaucoup de choses là-dessus. Sans peur et sans reproche, j'avais lu beaucoup de bouquins d'histoire. J'aime bien des bouquins dans lesquels on peut picorer. Moi, je me régale avec le bouquin de mon ami François Morel, là, son dictionnaire de l'inutile. Il y a des choses très, très jolies dans lesquelles je me retrouve beaucoup. Et ça, c'est des trucs sympas, ce qu'on peut picorer, comme d'ailleurs ce livre de contes, vous en lisez une. L'autre fois, j'ai envoyé ça à mon pote Pierre Richard, qui m'a envoyé un message charmant en disant « Écoute, j'ai beaucoup aimé ton bouquin, j'en lis un tous les soirs et je m'endors en souriant. » Donc c'est merveilleux, quoi. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire.
Vous sortirez un roman bientôt ?
Peut-être.
Vous avez des idées ?
Non,
les idées... Ou est-ce qu'immédiatement vous en faites un scénario ?
Oui, c'est ça. Par exemple, pour la lecture, moi je suis très... très occupé à lire ce qu'on m'envoie, souvent des films, des scénarios, pas forcément. En plus, on m'envoie des trucs en disant, bon, il y a pas de rôle pour toi, tu feras pas metteur en scène, mais lis-le, j'ai envie que tu me donnes ton avis. Ça, c'est long, c'est pénible à lire, et puis après c'est pénible c'est pas pénible quand on rentre dedans et que c'est bien, mais la lecture des scénarios est très très difficile quand vous ne rentrez pas dedans et que vous dites oh là là que c'est pas bien. Et il va falloir que je le dise, et comment je vais faire pour le dire. Savez, c'est comme quand je vais au théâtre et que les gens attendent mon jugement alors que je ne suis pas plus important que n'importe. Et c'est terrible de voir une pièce et de dire oh là là là. Et donc je reprends le mot de Tristan Bernard maintenant, hein, je vais dans les loges et je vais aller complimentir.
Complimentir. Merci beaucoup Gérard Jugnot. Restez avec nous et Victor Dolande, ce grand enfant qui va nous rejoindre.
Il était une fois.
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 Retour dans La Voix est libre, et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, donc 20 décembre, il reste quelques jours pour les cadeaux de Noël, et pour ceux qui sont en retard, vous avez peut-être une idée. Mais c'est un livre, Victor. Vous êtes sûr que ça fait plaisir à un gamin de 6-7 ans, un livre ?
Bah oui, mais ça dépend du livre surtout, Nicolas. Et je vous ai trouvé aujourd'hui un cadeau qui est vraiment un objet avant d'être un livre. Ça s'appelle le grand livre du petit Nicolas. Ah. Alors vous allez me dire, votre nièce ou votre neveu va faire un peu la tête quand vous allez lui donner. Eh ben non, parce que dès qu'on l'ouvre, on découvre plein de surprises à chaque page. Alors je pose le personnage du petit Nicolas. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, petit garçon de 6-7 ans, plutôt porté sur les bêtises, il vit avec son père et sa mère, fils unique donc. Et grâce à ce super livre trésor, on plonge dans l'univers de ce petit brin en culotte courte et gilet rouge.
Et qu'est-ce qu'on découvre dans ce super livre trésor ?
Et c'est là où ça devient intéressant, il y a les meilleures blagues de Nicolas, ses plus grosses bêtises qui nous font bien rigoler et qui donneront à coup sûr quelques idées à vos enfants, niveau décoration d'intérieur par exemple, si vos murs sont trop blancs chez vous, Nicolas, une idée pour vous. Pareil si vous
pas
avez...
pas sûr qu'ils aient besoin de ce livre pour le savoir.
Vous verrez, il y a quand même pas mal de ressources. Pareil si vous avez 6 ans et que vous voulez échapper au... Vous savez, au bisou un peu trop collant de votre grand-mère chérie qui vient vous faire des cadeaux, mais qui, de temps en temps, effectivement, vous colle un peu les joues, là.
C'est fini.
Exactement.
On a perdu Gérard Jugnot. Il est plongé dans le livre.
Il est génial, ce livre.
Il est superbe. Et effectivement, livre trésor, car à chaque page, on peut feuilleter des petits livres dans le grand, soulever des rabats qui vous feront découvrir la chambre de Nicolas, sa salle de classe, ses meilleurs coups au foot. Il adore le foot, Nicolas. Ses pires punitions aussi, il en prend régulièrement et il présente aussi tous ses copains Alceste, Eudes, Mexan, Rufus ou encore Joachim.
Ah, moi je dis Joachim, mais
parce
que
je suis deux écoles.
Question rituelle, à partir de quel âge ?
Alors je dirais que vous pouvez le lire à vos enfants à partir de 5 ans. C'est ce qu'on appelle un livre pop-up. Ils adoreront découvrir le monde du petit Nicolas grâce à des caches, une mise en scène intelligente à chaque page. Et vos enfants le liront seuls à partir de 6-7 ans sans problème. Ça leur donnera certainement envie de découvrir cet univers que Goscinny et Sempé ont imaginé avec malice. Il y a plus de 60 ans, rendez-vous compte, le premier a été écrit en 1956.
Ça passe. Et on rappelle le titre ? qui est fastoche. Le ouais. grand livre du petit Nicolas de Goscinny et Sempé, c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Merci beaucoup Victor.
Europe 1.
Merci à vous Philippe Dussault. Merci pour toutes ces lectures, pas seulement celles d'aujourd'hui. Et je signale que vous jouez dans Mandibule, le nouveau film délirant et génial de Quentin Dupieux. Et merci à vous Gérard Jugnot. Je rappelle, c'est l'heure des contes chez Flammarion, les contes revisités et réinventés. Merci beaucoup.
Merci à vous. Et joyeux Noël.
Joyeux Noël,
Félix.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.